Le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les dirigeants européens abordent ce soir deux sujets qui fâchent. Le Brexit, Theresa May s'apprête à rejeter la dernière proposition de ses partenaires, et les migrations, avec maintenant un désaccord sur le renforcement du contrôle des frontières via Frontex. Save the Children alerte sur le sort des enfants yéménites. Plus de 5 millions d'entre eux sont menacés de famine, d'après l'ONG, du fait des hausses des prix et de l'aggravation du conflit. Cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron confirme la création d'un centre national de ressources et de résilience pour mieux accompagner les personnes traumatisées. Et un musée mémorial du terrorisme va voir le jour. Enfin, Alexandre Benalla n'a pas convaincu la commission d'enquête sénatoriale. Des zones d'ombre persistent concernant le rôle exact du chargé de mission à l'Élysée. Les dirigeants des 28 pays membres de l'Union européenne se préparent à un dîner de travail laborieux ce soir. Réunis à Salzbourg, en Autriche, ils vont devoir aborder leurs querelles migratoires et les crispations sont récurrentes sur ce dossier. On pensait qu'il y aurait au moins un sujet consensuel dans un contexte où le renfort des contrôles aux frontières est unanimement réclamé. Et pourtant, il y a aussi des accords sur le renforcement de l'agence européenne Frontex, Marie-Pierre Véraud.
La France et l'Allemagne étaient pourtant confiantes. Le sujet est mûr et consensuel, se félicitait l'entourage d'Emmanuel Macron en début de semaine. Le porte-parole de la présidence autrichienne disait lui son espoir de voir le rôle et les capacités du corps de garde frontières européen renforcés à Salzbourg. Quant à la Commission européenne, elle avait déjà détaillé ses plans pour le porter à 10 000 hommes d'ici à 2020 et réservé plus de 2 milliards d'euros dans son budget pour l'équiper en navires, avions et véhicules. Les 28 semblaient bien d'accord, ils l'avaient laissé entendre lors du sommet de juin dernier, pour une politique commune de fermeté et fermeture des frontières. Mais même sur ce tout petit dénominateur commun, les voilà qui se déchirent. Viktor Orban a ouvert le bal lundi. Inacceptable, tonne le Premier ministre hongrois, que les bureaucrates de Bruxelles veuillent priver la Hongrie de ses droits à protéger ses frontières. Le Premier ministre ajoute devant son Parlement « Après les invasions allemandes et soviétiques, nous n'avons récupéré le contrôle de nos frontières qu'en 1990. Elles sont maintenant protégées par des patriotes et des professionnels. » La Tchéquie et la Slovaquie, qui appartiennent aussi au groupe de Visegrad, hostiles aux migrants, renchérissent. Donner l'argent aux États plutôt qu'à Frontex pour lutter contre l'immigration clandestine. Voilà pour le flanc oriental de l'Europe. Au sud, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, en première ligne face aux arrivées, seraient aussi réticentes, selon le chancelier Kurz, à voir Frontex déployer ses effectifs sur leur territoire. C'est une question toujours très sensible de souveraineté, mais la perspective des élections européennes n'aide sans doute pas non plus à calmer les esprits populistes qui pourraient décider de continuer à instrumentaliser cette question migratoire plutôt que d'aider à la recherche d'un accord.
Marie-Pierre Véraud, et un autre thème de discorde sera sur la table ce soir, le Brexit. Selon le quotidien britannique The Times, Theresa May va rejeter la dernière offre européenne visant à résoudre la question de la frontière irlandaise. La Première ministre estime que cette proposition continue d'enfreindre les lignes rouges qu'elle s'est fixées. De son côté, le président du Conseil européen appelle Londres à retravailler ses propositions pour débloquer les négociations. Donald Tusk, qui va proposer de convoquer à la mi-novembre un Conseil européen extraordinaire consacré au Brexit. La nouvelle offensive des forces gouvernementales yéménites contre Hodeïda fait redouter un nouveau drame humanitaire. C'est par cette ville portuaire, contrôlée par des rebelles, qu'une grande partie de l'aide humanitaire arrive au Yémen. L'ONG britannique Save the Children met en garde contre une famine d'ampleur sans précédent dans le pays. Selon elle, 1 million d'enfants supplémentaires risquent de souffrir de la famine, alors que les prix de la nourriture et du carburant ne cessent d'augmenter, Maria Melkurdi.
Oui, plus de 5 millions d'enfants risquent de souffrir de la faim, d'après l'ONG Save the Children, une crise humanitaire sans précédent, directement liée à la guerre. La raison, précisément, selon l'organisation britannique, c'est l'offensive qui est menée depuis plusieurs jours par les forces pro-gouvernementales dans le port d'Hodeïda, à l'ouest du pays, sur les bords de la mer Rouge. Ce port est stratégique, c'est par là que transitent plus de 70% des importations. C'est par là aussi qu'arrive l'aide humanitaire, et ce alors que 3 Yéménites sur 4 ont besoin d'assistance, notamment alimentaire, selon l'ONU. Cette offensive de l'armée yéménite a entraîné, vous l'avez dit, une envolée des prix des denrées et du carburant. La population civile, et en particulier les enfants, en sont les premières victimes, selon Tamer Kyrolos, directeur du bureau de Save the Children au Yémen.
De plus en plus de Yéménites n'ont pas accès à la nourriture pour survivre. De plus en plus de familles doivent faire ce terrible choix, soit dépenser leur argent pour leur santé, soit pour nourrir leurs enfants. On voit des parents arriver avec leurs enfants pour se faire soigner, mais malheureusement, souvent ils arrivent trop tard et leurs enfants meurent.
Et selon l'ONG britannique, 400 000 enfants souffrent déjà de malnutrition sévère au Yémen. Cette situation risque de s'aggraver. La ville et le port d'Hodeïda sont dans la ligne de mire des forces pro-gouvernementales depuis le mois de juin. Ces derniers jours, l'armée yéménite, aidée des forces saoudiennes et émiraties, mène des raids aériens autour de ce port. L'objectif, c'est de tenter d'en reprendre le contrôle d'Hodeïda qui est aux mains des rebelles chiites houthis soutenus par Téhéran. La coalition anti-rebelle accuse les houthis d'utiliser ce port d'Hodeïda pour faire introduire des armes en provenance d'Iran. Mais 600 000 civils vivent à Hodeïda et la principale artère qui relie le port au reste de la ville est bloquée selon Save the Children. Les organisations humanitaires appellent donc à un cessez-le-feu immédiat.
Maria Melkerdi. Le patron de la première banque danoise a démissionné ce matin. Le directeur général de la Danske Bank est emporté par un scandale de blanchiment d'argent concernant une filiale estonienne. Des fonds essentiellement russes ont transité par cette succursale estonienne entre 2007 et 2015 et les sommes en jeu sont considérables, Jean-Marc Chardon.
Et oui, des sommes qui pourraient atteindre les 129 milliards d'euros, montant gigantesque encore non vérifié, car il faudrait éplucher des milliers de comptes, il est question de 15 000, dont près de la moitié serait suspect. Une affaire tellement sulfureuse qu'il a fallu du temps avant que le parquet financier danois se décide à ouvrir une enquête. Des années après qu'un lanceur d'alerte, quelqu'un qui envoie un rapport de blanchiment de capitaux en Estonie, il met en garde contre des problèmes majeurs de blanchiment. L'année suivante, un audit de la Danske Bank pointe des mouvements suspects, ça conduit à la fermeture de la succursale estonienne aux clients qui ne sont pas résidents. Et l'affaire s'internationalise, la France ouvre une enquête contre la banque danoise, qui est la plus importante du pays. Entre-temps, on apprend que cet établissement est dans le collimateur des autorités américaines. C'est que l'affaire est juteuse, elle aurait permis à des oligarques, pour la plupart russes, de blanchir plusieurs dizaines de milliards. Apparemment, une affaire dans un circuit d'affaires interlope après des révélations. Révélations de ces dernières années qui ont transformé certains établissements en point de passage d'argent sale, l'Estonie ou la Lettonie jouant un peu le rôle de lavomatic russe dans l'espace européen.
Jean-Marc Chardon. Il y a tout juste un an, un grave tremblement de terre faisait 369 morts au Mexique, dont 233 dans la seule capitale. 40 immeubles se sont effondrés à Mexico et des milliers d'autres portent encore les cicatrices du séisme. Aujourd'hui, les personnes qui ont perdu leur logement vivent encore dans des campements et elles demandent aux autorités d'assumer la responsabilité du désastre. Car selon plusieurs enquêtes indépendantes, la plupart des immeubles endommagés n'étaient pas conformes aux normes en vigueur et l'ampleur de la catastrophe serait due à la corruption et l'absence de supervision des constructions. Le reportage d'Emmanuel Stills à Mexico.
Un an est passé depuis le tremblement de terre qui a détruit son immeuble et Petra Puebla peut enfin se réjouir. La reconstruction de son logement vient de commencer. Cette dame âgée vit dans un campement fait de tentes et de maisons temporaires face à la zone sinistrée dans le sud de Mexico. L'immeuble qui abritait son appartement violait toutes les normes architecturales, mais personne ne s'en est jamais soucié. L'organisation Mexicain contre la corruption a étudié à la loupe les cas de 30 immeubles tombés le 19 septembre 2017 à Mexico. Selon Daniel Lizarraga, l'un des responsables de cette enquête, il n'y a qu'une seule cause à ce désastre et elle n'a rien de sismique.
La catastrophe survenue il y a un an ne peut s'expliquer que par la corruption. Les avancées dans le domaine de la construction sont telles que même dans une ville comme Mexico, située dans une zone sismique, les immeubles peuvent s'abîmer mais pas s'effondrer.
Après le grave tremblement de terre survenu en 1985, la ville de Mexico avait adopté des normes plus strictes et chaque chantier devait être supervisé par un expert indépendant. Une figure qui s'est pervertie au fil du temps, selon Daniel Lizarraga.
Parmi les directeurs de chantier, certains se contentent de signer des autorisations sans vérifier les constructions, ce qui explique que des immeubles s'effondrent parce qu'ils ont été construits avec des matériaux de mauvaise qualité.
Des constructions en tout point édifiantes, comme les cas d'immeubles modernes bâtis sur des fondations anciennes, quand ce ne sont pas des panneaux publicitaires géants et des héliports qui sont venus se greffer sur des bâtiments fragiles. Depuis lors, Mexico est devenue la ville où chaque habitant se méfie de son logement.
Emmanuel Stills pour France Culture et la maire élue de Mexico l'a reconnu il y a quelques semaines. La capitale mexicaine n'est pas préparée pour affronter un autre tremblement de terre d'envergure. Alors que les ministres de l'environnement du G7 sont réunis au Canada jusqu'à vendredi, l'ONG CARE publie un rapport sur l'aide aux pays les plus vulnérables. Les financements des pays du G7 sont censés les aider à s'adapter aux effets du réchauffement climatique, mais ce soutien financier est jugé insuffisant par l'ONG. CARE s'est tout particulièrement intéressé à la part des financements dédiés aux femmes, premières actrices de cette adaptation, car ce sont surtout les femmes qui vont chercher l'eau, le bois et qui travaillent au champ. Pour Fanny Petitbon, responsable plaidoyer de CARE, les engagements pris dans ce domaine, notamment par la France, sont très décevants.
Les femmes et les filles des pays en développement qui dépendent énormément des ressources naturelles comme l'eau, le bois, pour subvenir aux besoins de leur famille, sont particulièrement affectées. Mais elles ont aussi un rôle à jouer. Elles sont vraiment indispensables pour apporter des solutions concrètes au changement climatique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles sont assez peu impliquées. Elles représentent 43% de la main-d'œuvre agricole à l'échelle mondiale. Mais par exemple, elles ne bénéficient que de 5% des formations réalisées par les services agricoles des différents États. Donc, comment on peut espérer mettre en place des politiques de lutte contre le changement climatique qui soient efficaces et durables si on n'inclut pas les femmes? La France a adopté une stratégie internationale sur l'égalité entre les femmes et les hommes et elle s'engage à intégrer de manière transversale le genre dans l'ensemble de ses financements. Seulement, elle est très en retard là-dessus. Donc, ce n'est pas créer des lignes spécifiques pour les femmes, c'est s'assurer que dans l'ensemble des projets de lutte contre le changement climatique, on s'assure qu'on ne renforce pas des inégalités, mais que vraiment on prend en compte les besoins des populations les plus vulnérables et qu'on les aide à développer les solutions. Ne pas cuisiner au bois, c'est développer donc des cultures avec des semences qui vont mieux résister aux sécheresses, aux inondations, c'est faire en sorte que les femmes puissent être des actrices dans les prises de décision, c'est tout un tas de choses. Et ça, pour nous, les discours sont là, de la France. Le problème, c'est de les transformer en actes concrets.
Fanny Petitbon de l'ONG CARE avec Véronique Rebérot. Alexandre Benalla a changé de ton. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, qui avait malmené des manifestants le 1er mai, s'est bien rendu à la convocation du Sénat. Il a présenté ses excuses au président de la commission d'enquête sénatoriale qu'il avait traité de petit marquis la semaine dernière. Et pendant les 2h30 qu'a duré son audition, il a répondu à toutes les questions. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Ambiance courtoise donc, mais Alexandre Benalla n'a pas convaincu les sénateurs pour autant.
Effectivement, qu'il soit de droite ou de gauche, les sénateurs ont fait part de leur frustration. Quant à ceux de La République En Marche, ils ont tout simplement boycotté l'audition. Parmi les questions sans réponse satisfaisante, le permis d'arme accordé à Alexandre Benalla, selon l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, cette arme n'était pas destinée à défendre le chef de l'État, mais à sa propre sécurité. Le sénateur LR François Grosdidier trouve la ficelle un peu grosse.
Quand on demande pourquoi l'arrêté de port d'armes signé par le préfet fait mention de sa mission de sécurité à l'Élysée, il nous dit que c'est pas lui qui l'a rédigé. Ce qui est très gênant, c'est qu'on se sente baladé, qu'on puisse nous asséner des contre-vérités qui sont contredites par les faits, comme ça, sous serment.
Autre affirmation contredite par les faits, Alexandre Benalla prétend n'avoir été qu'un simple collaborateur d'Emmanuel Macron et pas son garde du corps. Le sénateur PS Rachid Temal n'en croit pas un mot.
Monsieur Benalla nous dit qu'il n'avait jamais assuré de fonction de sécurité alors qu'il a été embauché depuis le début parce qu'il avait des compétences manifestement. Là, il y a un souci. Je crois qu'il nous faut encore continuer les travaux sereinement et la commission, comme l'a dit le président Bas, fera son rapport et émettra des propositions, des préconisations, parce qu'on vise à assurer, à améliorer la question de la sécurité du président de la République et de la sécurité en général.
Et plusieurs journalistes qui ont suivi le candidat puis le chef d'État Emmanuel Macron en témoignent. Le rôle d'Alexandre Benalla ne se limitait pas à celui d'un simple collaborateur. Certains qui s'approchaient un peu trop près d'Emmanuel Macron ont pu le constater à leurs dépens.
Antoine Maret, je me tourne maintenant vers le chef du service politique de France Culture, Stéphane Robert. Bonsoir.
Bonsoir.
On se souvient que les sénateurs La République En Marche avaient décidé de ne pas venir à cette audition d'Alexandre Benalla. Ils dénonçaient une instrumentalisation politique de l'affaire. Au vu de la bonne tenue de cette audition, on aurait pu penser que les critiques allaient s'atténuer, mais pas du tout.
Non, puisque le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s'en est encore une fois pris au président Les Républicains de la commission d'enquête sénatoriale, Philippe Bas, ce matin, laissant entendre qu'il n'était pas impartial.
C'est la plus élémentaire des déontologies que d'être le président impartial d'une commission d'enquête parlementaire. Il en a eu des célèbres dans l'histoire de la République. D'ailleurs, souvent composé en président, d'un membre de la majorité et d'un membre de l'opposition. Je constate qu'il n'y a que des membres de l'opposition qui président cette commission d'enquête.
À la fin de l'audition d'Alexandre Benalla, aux alentours de 11h ce matin, ses propos ont été rapportés à l'intéressé Philippe Bas. Écoutez sa réponse.
J'ignorais que M. Benjamin Griveaux fût professeur de déontologie et par conséquent, laissons-lui la responsabilité de ses propos. Nous essayons de travailler en dehors de toute cette agitation politicienne et nous allons poursuivre aussi sereinement que nous l'avons fait dans les premières semaines.
Philippe Bas qui sur ce point a reçu le soutien du sénateur Jean-Pierre Sueur, qui pourtant n'est pas du même bord politique puisqu'il est socialiste, et Jean-Pierre Sueur a renvoyé l'exécutif dans ses cordes.
Nous avons bien compris que certaines personnes sont très vigilantes quant à la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et la justice, le pouvoir judiciaire. Mais nous pouvons leur répondre que nous sommes également extrêmement attentifs à la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, que le pouvoir exécutif laisse le Parlement, et en l'espèce le Sénat, faire son office et tout ira bien dans la République.
Depuis la rentrée, l'entourage d'Emmanuel Macron s'évertue à essayer de décrédibiliser cette commission d'enquête. Ils sont plusieurs à être montés au créneau. Benjamin Griveaux déjà, mais aussi Christophe Castaner, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avaient tous trois dénoncé la semaine dernière l'instrumentalisation politique, vous le disiez, à laquelle, selon eux, se livraient les sénateurs. Mais ce faisant, ils ont eux-mêmes participé au fait de replacer Benalla sous les feux de l'actualité et ont relancé l'intérêt pour cette affaire, et en essayant d'éviter à tout prix qu'Alexandre Benalla soit entendu, ils ont encore une fois donné à penser que l'exécutif avait des choses à cacher, comme au cœur de l'été quand ils expliquaient que l'affaire Benalla n'intéressait pas l'opinion publique. Dès lors, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on a un peu de mal à comprendre que les proches du chef de l'État persistent dans cette posture peu crédible et contre-productive.
Stéphane Robert, les victimes du terrorisme ne sont pas des victimes parmi les autres, mais sont au cœur de notre fraternité nationale et de notre mémoire, déclare Emmanuel Macron. La République a beaucoup fait, mais elle peut faire plus, elle peut faire mieux, dit encore le chef de l'État, venu assister aux Invalides à Paris à une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. Adèle Bossard, vous avez écouté le discours du président, il a fait plusieurs annonces qui étaient attendu, à commencer par la création d'un musée mémorial.
Oui, un musée mémorial pour les victimes du terrorisme. Emmanuel Macron veut que sa préfiguration soit lancée sans attendre. C'est un lieu qui sera d'abord dédié aux victimes et aux proches des victimes pour se recueillir. Mais il doit aussi devenir un lieu de mémoire. Le président a notamment évoqué les écoliers les plus jeunes qui pourront s'y rendre. Et c'est tout ce qu'on sait à ce stade. On ne sait pas où il sera installé ce musée, ni à quelle date. Autre annonce, toujours dans le sens d'un travail de mémoire, il y aura bientôt une date dédiée aux victimes du terrorisme. Là encore, pas de précision, car la date en question, elle fait débat au sein même des associations. Il va falloir choisir entre garder le 19 septembre, comme aujourd'hui, c'est la date retenue en France depuis une vingtaine d'années, ou retenir la date européenne de commémoration qui est fixée au 11 mars. Le président assure qu'il tranchera en collaboration avec toutes les associations. Et puis les autres mesures, elles touchent plutôt à la prise en charge des victimes. Par exemple, un centre national de ressources et de résilience va être créé dans un CHU. Il prendra en charge tous les types de traumatismes et notamment ceux qui touchent les enfants. L'appel d'offres a été lancé cet été, a dit Emmanuel Macron. Et puis encore, la prise en charge des victimes qui sera améliorée à l'étranger, car c'est souvent plus difficile pour ces victimes françaises financièrement de se rendre au procès ou aux reconstitutions, par exemple.
Adèle Bossard, un couple d'hommes vient de remporter une victoire inédite en France. Le couple avait recouru à la gestation pour autrui au Canada et des jumelles étaient nées en 2011. La justice vient de faire droit à la demande d'adoption plénière par le conjoint du père biologique. Un jugement rendu par la Cour d'appel de Paris contre l'avis du parquet général. Pour l'avocate du couple, Karine Mécari, c'est une belle décision.
C'est une adoption qui est irrévocable, l'adoption plénière, alors que l'adoption simple est révocable. C'est une adoption qui permet de transmettre la nationalité française, ce que ne permet pas l'adoption simple. Et par ailleurs, le régime fiscal pour les enfants est identique à un enfant qui serait conçu, entre guillemets, naturellement, alors que dans l'adoption simple, il faut prouver qu'on a élevé l'enfant pendant 5 ans pour qu'il bénéficie du même régime fiscal. Et donc, ça protège les enfants.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pourraient s'inquiéter que ça institutionnalise la GPA ?
Je leur dis que c'est un argument absolument rhétorique, ça n'institutionnalise pas la GPA. Que je sache, le président Macron ou le Premier ministre n'ont pas dit qu'ils allaient légaliser la gestation pour autrui, qui est toujours interdite en France. Et donc, le désir d'enfant qui se concrétise par une gestation pour autrui est toujours aussi compliqué. Il nécessite de se rendre à l'étranger. Cela représente un coût qui n'est pas facilité par le fait qu'un enfant puisse être adopté par le conjoint qui n'est pas sur l'acte de naissance.
L'avocate Caroline Mécari, jointe par Cécile de Kervas-Doué, et la mère porteuse ne figurant pas sur l'acte de naissance, elle n'existe pas en droit. Demain jeudi, le temps sera couvert au lever du jour, mais ensuite ensoleillé et chaud. Deux exceptions, le nord-ouest qui restera sous les nuages et la Corse soumise à des averses parfois orageuses. Il fera 10 à 22 degrés le matin, 21 à 33 l'après-midi du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.